Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Eh bien, aujourd'hui, nous aurons deux invités qui vont répondre à toutes vos préoccupations par rapport à cette maladie, la drépanocytose ou anémie SS. Nous allons recevoir le docteur Marion Kalabwanga, drépanocytologue, et nous recevons également monsieur Pichu Lukisa, chef des divisions chargé de la prise en charge au programme national de lutte contre la drépanocytose ou anémie SS. Mais avant de recevoir nos invités, nous allons recevoir Mimi Engumba dans ses studios. Bonjour Mimi.
Bonjour Jody.
Nous parlons de la drépanocytose. Un Congolais sur trois est porteur du trait drépanocytaire S. Selon les études des chercheurs congolais, 2 bébés sur 100 naissent avec la maladie SS. Sur place, en République démocratique du Congo, la prise en charge pose problème d'après les spécialistes. Et le médecin parle d'une situation catastrophique. Alors, avec vous Mimi Ngumba, nous revenons sur cette maladie parce que vous avez eu à faire le tour de quelques centres qui prennent en charge ces maladies.
Disons d'abord, Jody, que c'est une maladie du sang qui produit une hémoglobine de mauvaise qualité, donc l'hémoglobine S.
Oui.
Et cette dernière ne transporte pas correctement l'oxygène dans les sangs. Et dans certaines conditions, le taux d'oxygène baisse. Par exemple, quand le malade est déshydraté ou fait de la fièvre, cette hémoglobine se durcit et rend les globules rouges rigides. Celui-ci ne passera plus facilement et va provoquer carrément des douleurs.
Oui.
Et ces globules rouges seront donc déformés et même détruits rapidement, ce qui fait que l'enfant vit avec une anémie chronique, il est tout le temps fatigué et ne grandit pas bien.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jours par rapport à la prise en charge de ces malades?
Ben, ce qu'il faut dire, c'est que la prise en charge continue à poser problème et il faut que les gouvernements s'y mettent. On sait qu'il existe aujourd'hui un programme contre l'anémie SS, mais on ne doit pas se limiter au niveau de la création de ce programme. Il faut y mettre des moyens pour lutter efficacement, surtout dans l'arrière-pays, dans des provinces et dans des coins reculés.
Oui.
On a du mal jusqu'aujourd'hui à poser le diagnostic. Or, c'est quand il n'est pas posé à temps, ça complique la situation parce qu'on ne sait pas prendre en charge le malade précocement.
Oui.
C'est peut-être ça qui fait que les malades meurent massivement et précocement dans l'arrière-pays. Bref, il faut se fixer un programme et être en mesure de dépister précocement pour les soigner aussi à temps. Il faut également que les malades aient la capacité d'accéder aux soins. Pourquoi pas rendre ces soins gratuits?
Oui.
C'est une possibilité pour permettre, je pense, à tous de se faire soigner parce qu'il n'existe pas des mutuelles de santé.
Alors, nous parlons de la prise en charge, mais elle représente quoi en termes de finances?
Ben, d'une manière générale, pour prendre en charge un enfant drépano dans ce pays, je veux dire drépanocytaire,
oui,
cela demande au moins 800 dollars par année. Juste une idée par rapport au centre que nous avons eu à visiter, la consultation varie entre 3 et 10 dollars. À la clinique Moncolé de Mongafula, que vous connaissez d'ailleurs,
mm-hmm,
ça varie autour de 10 dollars. Au centre Mabanga de Yolo, c'est entre 2500 et 3000 francs congolais, parce que c'est un centre officiel et d'ailleurs le moins cher de la ville, hein, par
oui,
rapport à ce test, bien sûr. Au centre-ville, il y a un centre que nous avons eu à visiter, c'est un centre privé sur l'avenue de la Science, qui lui demande 5 dollars pour une consultation.
Voilà, c'est bien dit. Merci Mimi Ngumba pour toutes ces informations. Nos invités seront là tout à l'heure. Il s'agit du docteur Kalabwanga, drépanocytologue, et nous allons également recevoir M. Pichu Lukisa, chef des divisions chargées de la prise en charge au programme de lutte contre la drépanocytose. Vous avez des questions par rapport à ça, des préoccupations, n'hésitez pas, c'est le moment. Composez déjà le 081-890-6394 pour des appels en direct. Pour les SMS, faites le 081-070-2050. Et pour ceux-là qui veulent nous écrire, eh bien, notre adresse, c'est action@radiocapi.net. Faites-le déjà, car nous allons recevoir nos invités tout à l'heure. Avec vous, Mimi, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Et
merci,
au
jeudi. Au revoir.
Mousso.
Nam.
Musique Donny Domfe. A doing nerfe. Yuzana blondie spontanément.
Soucieux de vous servir, Radio Okapi met à votre disposition toute une équipe de reporters et de présentateurs. Ils voient ce que vos yeux ont appris à ignorer, s'intéressent à vos problèmes et surtout aux solutions possibles, s'inquiètent de l'absence de suivi et réfléchissent avec vous. Okapi Service, une émission qui vous met au centre des préoccupations, les vôtres, de lundi à vendredi, à partir de 9h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de la prise en charge et la prévention de la drépanocytose ou anémie SS. On signale qu'en République démocratique du Congo, la prise en charge des drépanocytaires pose problème. Pas de beaucoup de centres de santé pour soigner les anémiques, pas de banque de sang dans certains hôpitaux. Le dépistage n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour le programme national de lutte contre la drépanocytose, le taux de prévalence anémique SS peut sensiblement baisser en République démocratique du Congo. Et il faut pour cela que les futurs époux fasse dépister avant le mariage. Vous avez des questions? Composez déjà le 081-890-6394. Notre premier invité est déjà là, Marion, c'est docteur Marion Kalabwanga, drépanocytologue. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez des questions, des réactions, écrivez-nous à action@radiocapi.net. On parle aujourd'hui de la drépanocytose. Alors, en quelques mots, c'est quoi la drépanocytose?
La drépanocytose est une maladie du sang.
Mm-hmm.
C'est une maladie qui est héréditaire.
Oui.
Oui, c'est une maladie qui est transmise donc par les parents qui sont porteurs d'un gène malade, qui le transmettent à leurs enfants. Et c'est une maladie qui se trouve au niveau du globule rouge du sang, plus précisément au niveau de l'hémoglobine du sang.
Oui. Et selon les informations reçues, c'est une maladie qui se manifeste beaucoup plus en Afrique et en Afrique subsaharienne.
Oui, c'est une maladie qui est plus répandue effectivement au niveau de l'Afrique subsaharienne, donc disons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, beaucoup plus. C'est une maladie qui est due, on nous dit que c'est une maladie qui serait due à une mutation, à une mutation d'un gène, due à l'influence du paludisme.
Oui.
Donc il y a une mutation d'un gène. Et on a pu avoir cette maladie de la drépanocytose, au fait, ou l'anémie SS.
Voilà, et nous recevons aussi dans ce studio M. Pichu Lukisa, chef de division chargé de la prise en charge au programme national de lutte contre la drépanocytose ou anémie SS. M. Pichu, bonjour.
Bonjour.
Ouais, c'est vrai qu'on a suivi que la prise en charge des malades pose problème dans notre pays.
Oui, la prise en charge des malades drépanocytaires pose un sérieux problème en République démocratique du Congo. D'abord parce que la maladie n'est pas très bien connue par la population en général et même des professionnels de santé et aussi des autorités politico-administratives. Et cette situation est à la base d'une mauvaise prise en charge de la maladie.
Voilà, il se pose un problème au niveau de la prise en charge, mais comment est-ce que vous pouvez prévenir cette maladie? Que faire? Quel traitement adopter en cas de maladie? Auditeur de Radio Capi, appelez déjà. Nous avons déjà un auditeur qui nous appelle depuis Calémi, Edouard. Il est en ligne. Bonjour, Edouard.
Oui, bonjour, Edouard.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation, c'est le fait. Sinon, on a fait de la capacité depuis le mai 2002. Jusque-là, nous avons beaucoup de problèmes. Nous ne sommes appropriés à Calémie, on n'a pas de centre de prise en charge à Calémie. Sinon, c'est vrai, c'est vrai, chaque jour, on a acheté pour faire ça un enfant. Et puis, ça me coûte cher. C'est pas, quelle solution vous pouvez me donner à propos de ce sujet?
Merci beaucoup, Edouard, pour votre intervention. Alors, docteur Marion, qu'est-ce que vous direz à Edouard par rapport à ça?
Oui, par rapport, il y a justement comme on venait de nous dire un problème de la prise en charge.
Oui.
C'est vrai qu'au niveau à l'intérieur du pays, on n'a pas vraiment de centre de référence pour les drépanocytaires. Alors, ce qui serait bien, ce serait que d'abord qu'ils suivent que les parents de cet enfant puissent respecter certaines règles de vie qui vont permettre à cet enfant de faire le moins possible des crises.
Quelles sont ces règles?
Les règles les plus simples, les plus simples à suivre, ça serait d'abord de mettre l'enfant dans des bonnes conditions, c'est-à-dire cet enfant ne devrait pas, devrait être dans un milieu qui est bien aéré. Cet enfant devrait éviter, donc on devrait bien le couvrir quand il fait très froid.
Oui,
on devrait bien l'alimenter. On devrait aussi, éviter qu'il fasse des jeux violents, des exercices brutaux.
Oui.
On devrait aussi lui donner beaucoup à boire. On devrait lui donner beaucoup à boire pour éviter qu'il se déshydrate et qu'il entre en crise. On devrait chaque fois qu'il fait une fièvre, l'emmener dans un centre de santé le plus proche. Je ne sais pas au niveau de Calémi comment ça se passe, mais s'il y a un centre de santé, on l'emmène en cas de fièvre, en cas de crise douloureuse.
Oui. Donc, il faut l'amener dans un centre spécialisé ou dans n'importe...
Comme ils n'ont pas de centre spécialisé au niveau de Calémi, ils peuvent d'abord l'emmener dans le centre de santé le plus proche. Quitte après, si la crise persiste, évidemment, l'emmener dans un centre de référence comme à Lubumbashi.
Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui cause généralement ces douleurs-là? Parce que parfois, c'est les personnes souffrant de cette maladie éprouvent beaucoup de douleurs.
Oui, la douleur est due au fait de la maladie même, qui est une maladie qui touche l'hémoglobine. Ce qui fait que le globule rouge est falciformé. Le globule rouge se déforme au niveau des vaisseaux sanguins. Mmh. Il ne sait plus bien circuler et ça crée la douleur, ça crée la crise.
Voilà, ça crée la crise. Et généralement, les personnes souffrant de cette maladie ne vivent pas longtemps, selon certaines personnes.
Dans le temps, oui, mais maintenant, avec la médecine, avec d'abord la prise en charge, c'est-à-dire d'une façon prophylactique, préventive, on peut permettre à cet enfant de bien vivre. Et puis, la prise en charge correcte de crise douloureuse, on peut permettre à cet enfant de bien vivre. Quand on parle préventivement, c'est-à-dire, il y a deux volets.
Oui.
Il y a d'une part, on a l'antibiothérapie prophylactique faite à base de la pénicilline orale à partir de l'âge de 2 mois. On peut
c'est-à-dire
donner...
quoi
c'est-à-dire que
des termes techniques. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'on va donner à cet enfant un antibiotique qu'on appelle la pénicilline orale.
Oui.
Oui, la pénicilline orale qu'il pourra prendre à partir de l'âge de 2 mois. Qu'il pourra prendre à partir de l'âge de 2 mois.
Là, c'est dans le cadre de la prévention.
Oui, dans la prévention
oui.
D'un malade drépanocytaire.
Ok, donc la personne est déjà malade.
La personne est déjà née drépanocytaire.
Oui.
Et maintenant, on la prend en charge pour éviter à ce qu'elle développe des complications.
Ok. Voilà, nous avons un auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, Mathieu Bokota. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu Bokota.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est la suivante. Compte tenu des statistiques sur la drépanocytose, nous voyons très bien que la drépanocytose est un problème de santé publique. Même l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont reconnu ça. Mais sur terrain, on ne voit pas leur contribution dans ce sens-là. Ils ne fournissent aucun effort à l'instar, par exemple, de dissidents ou de la malaria. Donc, il n'y a pratiquement aucune prise en charge. Par exemple, ici à Kisangani, nous avons un centre grâce à la Fondation qui travaille, qui essaie de prendre les drépanocytaires en charge, mais elle est butée à beaucoup de difficultés, d'autant plus que ni l'UNICEF ni l'OMS ne lui viennent en aide. Ça, c'est de un.
Oui.
Et deux, il y a notre gouvernement qui a créé une direction au niveau du ministère de la Santé, qui devrait en principe s'occuper de la drépanocytose. Mais on ne voit pas sur le terrain ces actions. Et qu'en est-il? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne s'occupent vraiment pas de la drépanocytose, d'autant plus que c'est vraiment un problème de santé publique? Des solutions sont à notre portée, mais on ne fait aucun effort pour les mettre en pratique. C'est ça un peu, je m'arrête un peu à ce niveau-là.
Oui, alors... Oui. Alors, Monsieur Mathieu, est-ce que le centre Gracia Fondation fonctionne toujours ou bien le centre est déjà fermé?
Il continue à fonctionner, mais il a quelques difficultés, mais il fonctionne quand même. C'est l'unique centre ici à Kisangani et voire dans la province orientale qui essaie de prendre en charge les drépanocytaires.
Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, Monsieur Pichou Lukisa, vous êtes le chef de division chargé de la prise en charge au programme de lutte contre la drépanocytose ou anémie SS. Il y a un sérieux problème. Vous avez suivi la préoccupation de Mathieu. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Tout d'abord, je remercie Monsieur Mathieu pour sa question qui est un peu très pertinente.
Oui.
Et d'abord, je veux lui dire que c'est un effort qui a été fourni au niveau national, au niveau international, pour que la drépanocytose soit reconnue depuis le 19 juin de cette année comme étant une priorité de santé publique à travers tout le monde. Et au niveau national ici, il y a notre gouvernement qui a reconnu que la drépanocytose était un problème de santé publique et a créé les programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose
ou anémie SS
depuis 2001. Alors, le programme, le gouvernement a donné le programme une mission très noble, celle de promouvoir et de coordonner la lutte contre l'ennemi SS à travers toute l'étendue du territoire national. Une mission noble, certes, mais
y a
très, très difficile à concrétiser, parce que le programme lui-même est buté à plusieurs difficultés. Les manques de financement, les manques de moyens matériels, logistiques, et il faut dire que le programme est sous-logé au sein du Centre National de Transfusion Sanguine à Bandal, et tous ces facteurs font
Mais si on ouvre un centre, ou un service, une division, on suppose qu'il y a des moyens pour ça. À l'ouverture, comment se fait-il que les centres ne fonctionnent pas aujourd'hui? Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie.
Non, les programmes fonctionnent. Les programmes fonctionnent et nous sommes à une étape...
Mais sans moyens.
On n'a pas encore de moyens financiers conséquents, mais il y a quand même des partenaires occasionnels qui essaient d'appuyer les programmes. Et récemment, on a fait sortir sur les terrains les protocoles nationaux de prise en charge de la drépanocytose. Donc, nous sommes en train aussi de préparer déjà la mise sur pied de la politique nationale de lutte contre l'anémie SS, les normes et directives de prise en charge.
Mais jusque-là, rien n'est fait concrètement.
Si, il y a des partenaires avec qui nous travaillons en collaboration, les ONG, qui, eux, sont nos partenaires du terrain et sur terrain et font certaines activités, notamment la sensibilisation, le dépistage et même la prise en charge psychosociale des parents des drépanocytaires aussi, des drépanocytaires eux-mêmes.
Voilà, nous avons en ligne Gaston qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Gaston.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Oui, votre préoccupation Gaston.
Oui, j'aimerais m'adresser au spécialiste qui est avec vous au studio.
Oui.
Et j'ai deux préoccupations. La première, l'une de mes siennes souffre de la maladie en question.
Oui.
Et elle a une alimentation très compliquée. Elle mange difficilement. Et comment vous sentez qu'elle a des caprices pour manger? C'est que parce qu'elle n'a pas, pratiquement pas de poids. Et à tout moment, elle fait des fièvres. J'ose croire que la procédure qu'elle a expliquée n'a pas été expliquée après deux mois. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle n'est pas née ici. Elle est née en province.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle peut me proposer en tant que spécialiste du point de vue d'abord de l'alimentation de celle que je parle? Ça, c'est une préoccupation.
C'est votre fille, hein?
Non, c'est pas ma fille, elle est de la famille, c'est une cousine.
Une cousine, ok.
Ah ouais. La deuxième préoccupation, vu que la drépanocytose est liée au sang, c'est-à-dire dès la naissance, et la personne est née avec cette maladie.
Oui.
Est-ce que dans le cadre de la recherche, dans les programmes, est-ce qu'il y a un programme où il y a une branche qui est chargée des études pour parvenir à trouver le vaccin, soit préventif ou curatif de la maladie? Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est condamné à mort. On sait qu'elle va nous quitter dans un peu de temps. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un vaccin curatif pour cette maladie-là?
Merci beaucoup pour votre intervention, Gaston. Alors, docteur Marion Kalabwanga, drépanocytologue, qu'est-ce que vous diriez à monsieur Gaston?
Si je peux dire à monsieur Gaston, c'est que premièrement, cette personne n'est pas condamnée à mort. On se rend compte que un drépanocytaire peut bien vivre avec sa maladie.
Mais il dit que sa cousine a des problèmes, elle ne sait pas très bien manger, il y a des problèmes là.
Oui, il y a peut-être un problème de suivi. La première chose, ça serait d'abord que cette personne qui est drépanocytaire soit suivie. Et surtout si la personne est au niveau de Kinshasa ou quand même il y a quelques centres de référence, cette personne, si elle est suivie régulièrement, on pourra savoir pourquoi elle ne mange pas. Parce que le fait de ne pas manger peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être une parasitose simplement.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire c'est une maladie... c'est-à-dire avoir des vers intestinaux, par exemple.
Oui.
Donc, il faut qu'on recherche les causes. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne s'alimente pas correctement.
Mm-hmm.
Et la seule façon de le savoir, ça serait de suivre cette personne régulièrement. Parce que quand cette personne viendra dans un centre de référence,
mm-hmm.
on commencera par des examens, des analyses les plus simples. Rechercher, voir son taux d'hémoglobine, voir... son taux, voir si elle n'a pas une infection dans le sang, voir si elle n'a pas une parasitose. Et quand on exclut on exclut tous ces problèmes, oui. on peut bien prendre en charge cette personne. Et surtout qu'il disait une chose, il disait que cette personne fait souvent des fièvres. Mm-hmm. Donc on doit la suivre pour déterminer quelle est la cause de cette fièvre, parce que cette cause-là peut aussi être la même raison qui fait que cette personne ne sait pas s'alimenter. Mais quand elle sera suivie au centre de santé et on pourra déterminer la cause, je pense que ce problème alimentaire pourra passer.
Oui, alors où est-ce que, combien de centres il y a dans la ville, par exemple, où il peut se rendre avec sa cousine?
Oui, on a le centre, le CEMAS, le centre de médecine mixte et anémie SS à Yolo.
Oui, à quel endroit précisément?
La place Mange à Yolo, tout le monde parle de Yolo Mabanga, vers pratiquement Ezo.
Oui.
Et il y a le centre Monkolé.
Oui, allez-y.
Le centre Monkolé à Mongafula. Et il y a quelques centres privés, comme le centre hospitalier Saint-Crispin chez le docteur Manzombi.
Oui. C'est où?
C'est sur l'avenue de la Science.
De la Science,
oui. Oui, dans la commune de la Gombe. Donc, c'est les quelques noms que je connais. Oui. Mais je pense qu'il y a, aussi l'hôpital des sœurs, Mbinza.
À Delvaux, c'est ça?
Oui.
À Mbinza, Delvaux. Donc, il peut se rendre dans ces différents centres pour n'est-ce pas, suivre la situation de sa cousine à chaque instant. Alors, continuez à nous appeler au 081-890-6394 pour poser vos questions par rapport à cette maladie. Mais docteur, selon certaines personnes, la meilleure façon de prévenir, voilà, revenons à la deuxième partie de sa question de Gaston. Il a demandé si c'est possible d'avoir un vaccin pour prévenir ou un vaccin curatif. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, dans d'autres cieux, les recherches se font dans cette direction et dans d'autres directions pour trouver une solution pour permettre aux drépanocytaires de bien vivre. Mais ici, chez nous, les recherches ne sont pas à ce niveau. Ce qui fait qu'on a opté pour aider le drépanocytaire à bien vivre avec sa maladie. Bien vivre avec sa maladie, de telle sorte que quand les recherches pourront, quand on pourra trouver un vaccin ou une solution définitive, ça serait pas mal.
Mais docteur, on dit souvent que les drépanocytaires, les gens qui souffrent de l'anémie SS ne peuvent pas dépasser 30 ans.
Oui, bon, actuellement, ce n'est plus une vérité. Ce n'est plus une vérité. C'est vrai que dans le temps, c'était une réalité que beaucoup de drépanocytaires mouraient très jeunes. Mais actuellement, justement, avec l'amélioration des conditions de vie d'un drépanocytaire, on a des drépanocytaires âgés. Des drépanocytaires de 50 ans, 60 ans, 70 ans, on a des vieux drépanocytaires et responsables.
Donc ils peuvent vivre longtemps.
Oui.
Alors, M. Pichou, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça?
Oui, oui. D'abord, une contribution par rapport à l'alimentation des drépanocytaires. C'est qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de tabou dans l'alimentation des drépanocytaires. C'est une personne comme toute autre personne qui doit tout manger. Comme l'a bien dit le docteur, il faut tout simplement un problème de suivi. Et en rapport avec un vaccin qui peut mettre fin à ces problèmes de drépanocytose, je pense qu'il n'y en a pas et peut-être qu'il n'y en aura pas. Parce que la maladie, c'est un problème de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui siège dans les gènes de la personne. Donc pour terminer ou éradiquer la maladie, il faut agir au niveau des gènes. Mais pour ces jours-ci, il y a des vaccins pour éviter les infections. Par exemple, les vaccins contre la pneumonie. Parce que nous savons qu'il y a des germes qui sont susceptibles aux drépanocytaires. Alors en leur donnant ces vaccins, ça fait que les drépanocytaires ne puissent pas faire beaucoup de crises et améliorer ainsi les conditions de vie des malades.
Oui, nous avons en ligne Robert qui nous appelle depuis Matadi. Bonjour Robert.
Bonjour monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Je suis même concerné parce que j'ai un enfant drépanocytaire depuis pratiquement 2 ans que j'ai découvert.
Oui.
Et ça m'intéresse le sujet. C'est Matadi, c'est vrai, il y a un centre qui s'occupe de ses enfants au niveau de Saint-Gérard. C'est une bonne chose, mais je confirme effectivement que l'État doit faire un effort pour s'impliquer afin que le programme qui est mis en place soit doté de tous les moyens et surtout que la prise en charge soit vraiment, et sur le plan national, une préoccupation du ministère avec de moyens colossaux à y mettre parce que c'est un état de santé publique. Mais je voudrais surtout donner un message à tous les parents qui ont un traitement de terre, comme moi. pour dire que c'est pas une calamité que d'avoir un transgénère. Et moi, je pense que c'est une bénédiction. Parce que c'est un enfant qui n'est pas comme tous les autres. C'est un enfant qui est hyper intelligent. Il suffit tout simplement d'observer certains principes, comme l'a dit tout à l'heure le docteur.
Oui.
Respecter, et voir ce qu'il faut faire quand il y a une manifestation et des crises, quand on sent. Donc, il faut être préventif à tout point de vue. Et c'est un enfant qui est très intelligent, et quand il est mis en bonne condition, il peut rendre d'énormes services à la famille et à la société entière. Mais ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que nous, les parents qui avons des enfants très parasitaires, nous sommes poussés à être très prudents, et même dans la vie. C'est-à-dire, à éviter des dépenses inutiles, dans la boisson, dans les femmes, tout ça, parce que nous savons que nous devons garder toujours un peu d'argent en cas de crise. Donc, c'est un enfant qui prédispose la famille.
Alors monsieur Robert, vous confirmez que votre enfant, elle a quel âge?
L'enfant a 3 ans.
Elle a 3 ans et l'enfant se porte bien, elle fait de moins en moins de crises.
L'enfant fait de moins en moins de crises parce que sa mère est sociologue et c'est le prend en charge totalement, et surtout qu'elle est suivie par le docteur qui zoome au niveau de Mabana. Et c'est ça, et je recommande aussi à tous les enfants qui sont, en fait, tous les parents, d'être suivis par un médecin spécialiste, parce que éviter le centre où il n'y a pas de service. Et c'est une maladie qui n'est pas connue même par les médecins. Beaucoup de médecins ne connaissent rien. Parce qu'on m'a dit même que le chapitre qui concerne, en fait, c'est juste un petit point du cursus du médecin qui est évoqué dans leurs études. Et donc, il ne s'est pas développé. Ceux qui se sont spécialisés se sont fait un effort pour suivre des formations. Donc, même les médecins ignorent beaucoup de choses sur cette maladie.
Merci beaucoup, monsieur Robert, pour votre intervention. Alors, docteur Marion, c'est vrai que beaucoup de médecins n'ont pas été formés par rapport à cette maladie. Il y a que peu de... Les spécialistes se comptent au bout du doigt.
Oui, c'est vrai que c'est une réalité, que la drépanocyte et fait partie du grand cours d'hématologie, et que dans ce grand cours d'hématologie, on a parlé d'un chapitre de la drépanocytose, mais on n'est pas vraiment allé en profondeur dans le cursus du médecin congolais, ce qui fait que beaucoup de médecins ne sont pas à même de prendre en charge correctement un drépanocytaire, et que les seuls, comme le disait monsieur, qui peuvent les prendre en charge, se sont formés eux-mêmes, au fait.
Oui. Voilà, nous avons Jérémy qui nous appelle depuis le Maniema. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Oui, quel est votre problème, Jérémy?
Oui, le problème, c'est que je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'engager dans la vie avec une fille de panocytaire? Et si oui, quels sont les risques auxquels on fait face à la petite?
Oui.
Et moi, j'en connais une depuis au moins 3 ans.
Oui.
Et l'avenir était que j'aille jusqu'au bout. Mais quel conseil le transitaire, le médecin en face, vous pourrez me donner?
Oui. Vous reprenez un peu votre question.
Je dis que j'ai eu une transitaire avec qui je vis depuis au moins plus de 3 ans.
Oui.
Donc je voulais savoir quel conseil le médecin en place au studio pouvait me donner. Est-ce que faut-il m'encourager de travailler cette voie-là?
Ok. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, pour votre intervention. Docteur, qu'est-ce que vous direz à Jérémy?
Oui, je dirais à monsieur Jérémy que l'engagement n'est pas un problème. Une drépanocytaire peut se marier, mais la condition, ça serait d'abord que lui aussi fasse son électrophorèse de l'hémoglobine, qu'il fasse des examens spécifiques qui pourront déterminer il a quel électrophorèse d'hémoglobine. Parce que pour qu'une personne drépanocytaire puisse se marier, il devrait se marier avec une personne avec hémoglobine AA. Et s'il se marie avec une personne qui a comme électrophore de l'hémoglobine le groupe AA, alors il n'y a pas de problème. Mais si le monsieur est AS, là ce n'est pas possible. Parce qu'il risque de faire des enfants drépanocytaires, des enfants malades, une maman malade avec des enfants malades. Donc ça sera difficile à gérer. Oui. Et puis, il a demandé aussi les risques qu'il peut avoir. Oui. S'il était AA, par exemple, c'est vrai que la femme drépanocytaire est appelée aussi à avoir des enfants. Et c'est à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Elle va concevoir, mais elle devrait être bien suivie dès la grossesse, que sa grossesse soit bien suivie, et avec des médecins, des gynécologues qui s'intéressent à la drépanocytose, on peut bien la faire accoucher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complications qui peuvent arriver, mais une drépanocytaire, en tout cas, peut se marier.
Donc, qu'ils aillent d'abord faire un examen d'électrophoreuse. Et c'est cet examen qui va déterminer s'ils peuvent se marier ou pas.
Oui.
Mais il y a possibilité de se marier.
Il y a possibilité de se marier pour un drépanocytaire ou encore une drépanocytaire.
Voilà. Jean-Marie nous appelle depuis Kinshasa. Avant de le retrouver, nous allons d'abord vous rappeler notre numéro de contact. C'est le 081 890 63 94 ou bien écrivez-nous à action@radiocapi.net.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Oui, quel est votre problème?
Je crois que comme le docteur l'a dit, là, apparemment, l'origine de cette maladie-là est connue. Bon, je dis qu'au lieu peut-être de chercher à guérir, pourquoi est-ce que au niveau du programme national, on ne peut pas organiser des campagnes de sensibilisation pour inciter les jeunes, les gens qui sont en instance de se marier, avant de se marier, qu'ils connaissent leur électrophorèse d'hémoglobine.
Alors, oui.
Et laisser les gens se marier et puis après, ils se retrouvent en famille avec des enfants, c'est comme on dit.
Alors Jean-Marie, est-ce que vous avez ce problème-là? Vous avez un cas ou peut-être un membre de votre famille qui en souffre?
Non. En famille, il n'y en a pas. Moi-même qui vous ai téléphoné ici, je suis d'électrophorèse AF.
Oui.
À l'époque, quand j'étais à l'université, j'étais donneur bénévole du sang au clinique universitaire. C'est à partir de là, et quand j'étais en contact avec le médecin de la banque du sang du clinique universitaire,
oui.
Je crois que non, avec ça, il faut faire très attention dans votre vie. Il ne faut pas trouver une femme qui a l'électrophorèse AS parce que vous risquez d'avoir des enfants
SS.
Donc, c'est à partir de ce moment-là, en tant qu'étudiant, que j'ai commencé à me préparer de façon que la femme que je devais épouser doit être d'électrophorèse AA. Et c'est ce qui est arrivé. C'est qui a pu m'éviter d'avoir les enfants SS.
Merci beaucoup, Jean-Marie, pour votre intervention. Alors, M. Pichoulou, qui est chef des divisions chargées de la prise en charge au programme national de lutte contre la drépanocytose, il s'est posé un problème. M. Pichoulou a soulevé un problème. Pourquoi ne pas intensifier la sensibilisation pour prévenir ceux-là qui veulent s'engager sur la voie du mariage, ceux-là qui veulent se marier? Attention, prenez vos précautions par rapport à ça pour éviter d'avoir des enfants plus tard SS.
Ah, bon, au niveau de la ville province de Kinshasa, il y a quand même des actions en termes de la sensibilisation qui se font par les ONG, mais il faut dire que la ville est trop grande et que les actions ne sont pas vraiment de grandes envergures par le simple fait que les ONG eux aussi sont butés par les problèmes de moyens financiers. Et les programmes font aussi un grand effort de sensibiliser. L'année passée, nous avons organisé une rencontre de responsables des églises pour leur parler de ces problèmes. Et cette année, nous comptons déjà faire appel à tous les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa pour que, lors des mariages civils, qu'ils demandent au moins l'électrophorèse d'hémoglobine aux futurs époux. Parce que, comme l'avait déjà dit le docteur, la prévention de la drépanocytose se situe à deux niveaux. D'abord pour ceux qui ne sont pas malades et pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui ne sont pas malades, ils doivent nécessairement faire les tests d'hémoglobine pour connaître leur électrophorèse afin d'éviter d'avoir des enfants AS ou SS. Et pour ceux qui sont malades, ce sont les règles de vie que le docteur avait déjà cité qu'il faut observer pour améliorer la qualité de vie des malades.
Et ces examens-là d'électrophorèse, où est-ce qu'on peut les faire?
Ces examens sont faits, le programme les faisait en collaboration avec certaines ONG, mais au niveau du centre hospitalier Monkolé, l'électrophorèse
à
Mongafula, et au niveau du centre national de transfusion sanguine à Bandal, là où siègent même les programmes, et on fait aussi les tests d'hémoglobine. Et au niveau de l'INRB, il y a aussi des laboratoires et des structures privées qui en font. Mais il n'y en a pas vraiment un nombre suffisant pour couvrir la ville-province de Kinshasa.
À travers les autres provinces, à Lubumbashi, Kisangani, à Bukavu et partout ailleurs.
Il y a le Monkolé, le CFA Monkolé, qui les font en collaboration avec certaines structures au niveau des provinces, par exemple à Lubumbashi et à Kisangani aussi. Il y a des ONG aussi qui les font au niveau de Matadi. Mais il faut dire qu'en termes de couverture au niveau national, elle est vraiment très très faible.
Elle est encore faible jusque là. Ilunga, Monsieur Ilunga nous appelle depuis Mbujimayi. Bonjour Monsieur Ilunga.
Bonjour monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, et je voudrais demander à la spécialiste, parce que il y a des phytothérapeutes, donc la médecine traditionnelle,
oui,
qui prétendent avoir la possibilité de guérir complètement et totalement la maladie.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce une réalité? C'est possible?
Vous avez déjà tenté l'expérience? Vous êtes déjà allé voir le traditionnel praticien?
Bon, en fait, j'ai pas tenté l'expérience, mais comme vous le savez, ici à Mbujimayi,
oui,
et je pense aussi à Kinshasa, il y a des publicités qui passent à la longueur de la journée à la télé, tout comme à la radio.
Oui.
Il y a des panneaux publicitaires, il y a des campagnes qui se font. Ces gens-là prétendent avoir la capacité de guérir la drépanocytose.
Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ilunga. Alors, docteur Marion, vous avez suivi sa question. Beaucoup de publicités sur les chaînes de télévision, à la radio. Voilà, venez voir tel traduit praticien. Il a le pouvoir, il a la capacité de guérir toutes les maladies, dont l'anémie SS. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Ilunga?
Je pourrais lui dire que, en général, ces personnes ne guérissent pas la drépanocytose, parce que la drépanocytose est une maladie qui se trouve au niveau du gène. Il faudrait vraiment modifier le gène de cette personne pour guérir de cette maladie. Alors, très souvent, ce sont des personnes qui corrigent l'anémie, peut-être avec certains extraits de plantes. Ils arrivent à corriger l'anémie, mais pas à guérir de la drépanocytose, pas à guérir de la cause de la drépanocytose, qui fait que ce malade-là finissent par venir dans des centres de référence avec peut-être des complications. C'est comme ça que je peux dire que, en tout cas, ce n'est pas démontré scientifiquement qu'il y aurait des plantes ou des extraits de plantes qui guériraient de la drépanocytose.
Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Quel conseil pratique vous donnez à ceux-là qui sont tentés d'aller voir les traduits praticiens?
Je suis tentée de leur dire que ça serait mieux d'aller dans des centres de référence et de se faire suivre médicalement.
Voilà, nous avons Deo Gratias en ligne qui nous appelle depuis Moba. Bonjour Deo Gratias.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Oui, quel est votre problème?
Bon, je voulais juste poser la question au docteur qui est votre invité. Bon, en fait, pour éviter que les enfants ne soient pas nés en MSS, bon, en fait, leurs parents ne doivent pas être de quel groupe sanguin, monsieur le journaliste?
Voilà, pour éviter que les enfants ne soient pas leurs parents doivent être de quel groupe sanguin, docteur Marion?
Oui, je voudrais d'abord faire la part des choses. Le groupe sanguin n'a rien à voir avec l'anémie SS ou la drépanocytose.
Mm-hmm.
Le groupe sanguin, concerne, c'est-à-dire la membrane du globule rouge, où on détermine de quel groupe sanguin cette personne. C'est plus par rapport à la transfusion, au cas où de transfusion, on devrait connaître le groupe sanguin d'une personne. Mais dans la drépanocytose, on parle de l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est-à-dire, on voit l'hémoglobine et on détermine si cette personne est de quel groupe de hémoglobine. Il est SS, il est AS ou il est AA. Et pour éviter de faire des enfants drépanocytaires, il faut que des individus qui sont AA peuvent épouser des individus AA ou AS ou encore SS. Des individus qui sont AS ne peuvent pas épouser des personnes AS. Ils ne peuvent épouser que des personnes AA pour éviter de faire des drépanocytaires.
Mmh.
Et les drépanocytaires eux-mêmes ne peuvent que épouser des personnes AA. C'est-à-dire, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine, mais pas le groupe sanguin.
Le groupe sanguin n'a rien à voir
avec l'anémie SS ou la drépanocytose.
Voilà, Guy nous appelle depuis Kolwezi. Bonjour Guy.
Bonjour ma fille. Ma préoccupation est la celle-ci. Hein.
Oui, allez-y.
J'aimerais, comme la spécialiste dans le studio, qu'elle me réponde. C'est-à-dire, j'ai une nièce qui prend plusieurs garçons. Une nièce qui est adolescente, là, mais elle aime beaucoup prendre les garçons. Mais elle est SS. Nous trouvons que si elle devient grosse, elle peut peut-être nous laisser quitter cette terre-ci. Quel est le conseil que la spécialiste peut me donner?
Donc vous dites que vous avez une nièce qui aime bien, qui est SS.
Une nièce qui aime bien sortir avec plusieurs garçons.
Plusieurs garçons, oui.
C'est profité ou quoi, toi?
Alors, docteur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça?
Le conseil qu'on donnera à sa nièce,
oui,
ça serait une éducation sexuelle, au fait. Hein.
Mm-hmm.
Elle doit être éduquée sexuellement parce que non seulement elle a le risque de faire des enfants drépanocytaires comme elle-même, mais aussi elle peut attraper des infections sexuellement transmissibles et le VIH-SIDA.
Mm-hmm.
Donc, c'est une personne qui devrait d'abord sexuellement se discipliner. Et puis, se choisir un seul partenaire avec lequel elle peut faire des enfants. Mais ce partenaire devra être absolument AA.
Mais si là, elle n'arrive pas à se discipliner.
Ah.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Bon, en tout cas, on ne peut rien faire pour une personne qui est adulte. Je suppose qu'elle doit être adulte, cette nièce. Parce que si c'est une personne adulte,
oui,
seule elle peut décider de ce qu'on peut faire pour l'empêcher de faire des enfants.
Voilà, Monsieur Guy, vous avez suivi la réponse. Voilà, il n'est plus allé, je crois qu'il a suivi. Et un autre auditeur nous appelle de Mbandaka, Lucien. Bonjour, Lucien.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quel est votre problème?
Oui, mon problème réside sur le rapport entre le paludisme et la drépanocytose.
Oui.
J'ai entendu dire le docteur que la drépanocytose étant une maladie génétique, il y avait une intervention du paludisme dans son déterminisme, ce qui n'est pas vraiment correct parce que la drépanocytose est une maladie qui frappe surtout la race noire, où qu'elle soit, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit en Europe, la race noire. Et l'autre, mon autre préoccupation, c'est porte sur la prévention des crises douloureuses en cas de la drépanocytose. Le docteur a parlé de l'administration à partir de 2 mois de la pénicilline orale. Or, la pénicilline orale, c'est un antibiotique qui n'a rien à voir avec la survenue des crises douloureuses, parce que la population risquait de commencer à administrer la pénicilline orale parce que après avoir appris ce que la drépanocytologue a dit. Les crises douloureuses étant dues à la vaso-occlusion, peut-être que ce sont des vasodilatateurs qui peuvent aider la prévention de ces crises-là. Je voulais aussi intervenir sur le vaccin, un éventuel vaccin anti-drépanocytaire.
Oui.
La drépanocytose étant une maladie non infectieuse, un vaccin ne peut pas être envisagé. C'était une vaccinothérapie anti-drépanocytaire ne peut pas être envisagée vu qu'elle n'est pas une maladie infectieuse. Peut-être une thérapie qui irait agir, comme l'a dit un autre intervenant, qui irait agir sur les gènes. C'est un peu ça mon apport au sujet de la drépanocytose.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lucien, pour votre intervention. Alors, docteur, vous avez parlé de la prévention. Docteur dit que le produit dont vous avez fait allusion n'est pas le meilleur, adapté à la maladie, la pénicilline orale.
Oui, au fait, c'est que j'aurais dû dire, peut-être.
Par rapport aux douleurs, oui.
Oui, parce que la prise en charge de la drépanocytose, ce n'est pas seulement par rapport à la crise douloureuse,
mmh,
mais c'est une prise en charge qui est totale et qui est globale. Et par rapport à cette prise en charge, justement, on a parlé du volet chez le drépanocytaire lui-même, prophylactique. Il y a un volet préventif et prophylactique, et il y a un volet curatif, c'est-à-dire la prise en charge, justement, des complications, des signes et des complications de la drépanocytose.
Oui.
Et justement, dans la prise en charge prophylactique de la drépanocytose, on prend justement une antibioprophylaxie. Parce que quand il parle, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est dans le domaine.
Oui.
Donc, c'est pourquoi je parle d'une antibioprophylaxie, c'est-à-dire un antibiotique qui va prendre pour prévenir des infections. Parce que la drépanocytose, il y a une épine irritative, c'est-à-dire il y a des causes qui déclenchent les crises.
Mmh.
Entre autres, on a les infections qui déclenchent la crise du drépanocytaire. C'est comme ça que pour justement éviter ces infections, on va donner cette antibioprophylaxie, cet antibiotique prophylactiquement. Mais on ne le donne pas comme ça, chacun ne le donne pas chez lui. Il vient au centre de santé où on va mettre cet enfant sous ces antibiotiques. Et on va le mettre aussi, on va faire un programme de vaccination spécifique.
Mmh. Oui.
Parce que d'abord, chaque enfant drépanocytaire doit recevoir les vaccins PEV et doit du programme élargi de vaccination et devraient aussi recevoir des vaccins spécifiques de la drépanocytose. Tout cela pour éviter les infections qui sont une des causes des crises du drépanocytaire.
Et par rapport à la malaria, il dit que c'est une maladie qui touche le peuple noir, mais il dit qu'il ne voit pas le lien que vous faites avec la malaria.
Oui, d'après les chercheurs, justement,
oui.
On a vu, parce que les noirs qui sont en Amérique, ils ne sont pas nés en Amérique. Les noirs qui sont par-ci, par-là dans le monde, ils viennent de l'Afrique. Et on a vu que dans le temps, il y a eu justement, parce que en Afrique, la partie qui est concernée en Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne, qui est la même, qui est touchée aussi par... C'est cette même partie où on retrouve le paludisme. Et l'organisme, en cherchant à se défendre, d'après les chercheurs, en cherchant à se défendre contre le paludisme, a occasionné cette mutation du gène. D'où la drépanocytose. Ça, c'est l'avis de certains chercheurs.
De certains chercheurs. Voilà. Hilaire nous appelle depuis Kinshasa. Hilaire, bonjour. Bonjour.
Ma question concerne la technique du traitement de l'anémie. Est-ce par la greffe de la moelle osseuse? Il semblerait qu'en Belgique, à un certain moment, ça se faisait à un niveau là de 10 000 dollars. Est-ce qu'au niveau de notre pays, on ne peut pas envisager aussi cette technique-là? Parce que semble-t-il, avec cette technique-là, on met fin à la maladie.
Oui, vous avez suivi, docteur, la question d'Hilaire. Il semble qu'avec la technique de la greffe de la moelle épinière, on peut mettre fin à la maladie.
C'est une technique qui permet pas de mettre vraiment fin à la maladie, parce que c'est une technique qui permettra au malade de bien vivre. Au fait, on ne joue pas au niveau du gène, mais on joue vraiment au niveau du phénotype. C'est-à-dire cette personne, on greffe la moelle d'une autre personne qui n'est pas drépanocytaire, et ça permet effectivement à cette personne de mieux vivre. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que c'est une méthode. C'est une technique qui est très coûteuse et très spécialisée.
Elle est pratiquée, il a parlé de la Belgique, je crois.
Oui, dans certains pays, en Belgique, en France, en Afrique du Sud.
Mais ici, chez nous, cette technique n'est pas encore du jour.
Oui,
hein?
Vu le coût.
Vu le coût, monsieur Pichou.
Oui, vu le coût. Alors, ça ne sert à rien de proposer une technique très coûteuse dans notre pays. Autant mieux proposer aux parents des drépanocytaires de l'observance des règles de vie très simples.
Alors, rappelons ces règles-là.
Et d'abord, il faut bien alimenter l'enfant, comme je l'avais déjà dit, et qu'il n'y a pas de tabou alimentaire pour les drépanocytaires. Il faudrait réhydrater l'enfant, c'est-à-dire lui donner à boire, n'importe quoi, du jus, l'eau, tout ça. Il faut surveiller la température de l'enfant chaque jour. Et en cas de fièvre, il faut consulter les centres de santé ou l'hôpital général de référence les plus proches. Et il faudrait éviter les refroidissements pour l'enfant, surtout pendant la pluie ou même laisser l'enfant comme ça. Il faut éviter aussi les fortes températures pour ne pas déclencher les crises vaso-occlusives chez l'enfant.
Oui.
Et il faut aussi éviter les piqûres des moustiques, parce que le paludisme aussi est une des causes qui déclenche les crises vaso-occlusives chez l'enfant drépanocytaire. Et il faut bien aérer l'enfant, éviter que l'enfant se trouve dans un endroit trop étouffé, dans une chambre mal aérée où il y a beaucoup de gens, c'est surtout dans les quartiers où il y a une grande promiscuité. Alors ce sont ces règles-là qu'il faut éviter pour améliorer la santé du drépanocytaire, au lieu de penser à la greffe. Et il y a même des autres scientifiques qui disent qu'il y a des études qui montrent que sur 100% des gens qui ont subi la greffe de la moelle, alors il y a 80% chez qui la greffe a essayé peu de porter solution. Mais les 20 autres pourcents, la greffe n'a rien changé dans la vie des drépanocytaires.
Voilà, nous avons Christian qui nous appelle de Bukananga. Bonjour Christian. Oui, quelle est votre préoccupation?
Bon, j'ai deux préoccupations. La première, c'est la suivante. Bon, je demande à madame docteur, s'il y a maintenant dans une famille deux conjoints qui ont des amis, des enfants au monde de SS, bon, quel conseil peut-il peut-être donner à ce couple-là?
Oui.
Et la deuxième question, maintenant, s'il y a des naissances répétées de ces mêmes anémies, cette même anémie-là, bon, c'est-à-dire, on a des amis au monde, deux ou trois enfants, du coup, et ça continue. Quel conseil la madame peut encore donner à ces couples? C'est ça le but de l'éducation.
Voilà, docteur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ce que je dirais à ce couple, c'est d'abord d'accepter ses enfants comme étant des drépanocytaires. De ne jamais le cacher aux gens que ses enfants sont drépanocytaires, parce que ça peut, on peut sauver des vies quand on sait que cette personne est drépanocytaire. Donc eux-mêmes doivent commencer par accepter le fait que leur enfant soit drépanocytaire. Et puis, quand l'enfant va grandir, aider l'enfant à s'accepter en tant que drépanocytaire. Et ils devraient maintenant mettre leurs efforts, faire donc épargner suffisamment pour la prise en charge de ces enfants. Ils devraient non seulement la prise en charge dans le centre de santé, mais aussi éduquer et instruire ces enfants. De telle sorte que ces enfants, quand ils vont grandir, ils pourront se prendre eux-mêmes en charge.
Voilà, mais là, il y a des gens, par exemple, ils vont faire l'examen d'hémoglobine, de l'électrophoreuse, et les résultats sont tels que tous les deux, ils sont AS, et puis ils se disent, bon, au nom de l'amour, on accepte de s'engager. Qu'est-ce que vous direz à ces gens-là?
Que ce n'est vraiment pas une bonne décision,
oui.
Parce que avoir des enfants malades, non seulement c'est coûteux, mais c'est vraiment beaucoup plus pénible pour ces enfants qui sont malades et qui risquent de souffrir énormément. Donc, que vraiment, au nom justement de l'amour,
oui.
qu'ils s'abstiennent, qu'ils ne se marient pas, c'est l'idéal. Mais parce que quand ils acceptent, ils devraient aussi accepter les conséquences.
Voilà. Docteur Marion Kalabwanga, drépanocytologue, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous disons également merci à M. Pichu Lukisa, chef des divisions chargé de la prise en charge au programme national de lutte contre la drépanocytose.
Mm-hmm.